Merci à tous ceux qui se joignent à nous. On va parler de grippe. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur la période de vaccination. Vous voulez savoir si vous devez ou non vous faire vacciner. Et comme la période de vaccination contre la grippe commence aujourd'hui, je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment d'en parler. Chaque année, on le sait, on regarde un peu les taux de succès mitigés là, des vaccins qu'on nous propose. Entre autres, l'an dernier, vous vous souvenez, le vaccin contre la grippe avait un taux de succès de 10 à 20 contre la souche qui a frappé le plus fort au Québec l'hiver dernier. C'était le H3N2. C'est l'une des souches de l'influenza de type A, selon l'Institut national de la santé publique du Québec. Pour l'influenza de type B, le taux de succès est toujours un peu plus grand. On parlait de 55 %. Mais ça reste que quand on regarde une protection globale, on se dit, bon, 30 %, c'est pas mauvais. Mais c'est pas un gros char non plus. On s'entend, c'est pas très fort. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont décroché de ça. Puis on s'en est parlé au fil des ans, vous et moi. Vous êtes nombreux à me dire, bon, moi, je me fais plus vacciner. Et il y a quand même des gens qui sont à risque, il y a des populations à risque. Et il y a aussi le fait qu'on oublie un peu trop souvent que la grippe, là, c'est pas un rhume. Puis des fois, on est mêlé, mais la grippe, c'est sérieux. Il y a plus de 4000 personnes qui meurent chaque année au Canada des conséquences de la grippe. Et chez nous, il y a eu un cas dont je veux vous parler. Puis on va parler tout de suite à cet invité. Il a été grippé, son système immunitaire a été affaibli par l'influenza, par une pneumonie. Et là est arrivée une bactérie assez agressive qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, Hugues Leblanc a dû être amputé des pieds et des mains à la suite de cette infection. Hugues Leblanc est avec nous. Bonjour Hugues.
Bonjour.
Merci de prendre le temps de nous parler. Je pense que ça a été un grand choc dans votre vie. Votre histoire m'a beaucoup touchée parce que j'ai eu l'occasion il y a quelques années de faire un documentaire avec Marisol Saint-Onge. Vous avez sans doute entendu parler de Marisol qui en mars 2012, donc c'était il y a 6 ans et demi, elle a eu un peu le même problème que vous. Elle, c'était aussi à la suite d'un simple virus. Elle n'avait pas voulu aller à l'hôpital pour pas engorger le système et on l'a amputée effectivement des 4 membres comme vous. Je ne sais pas si vous aviez suivi son histoire, mais j'imagine que vous n'avez jamais pensé que la grippe ou qu'une infection puisse vous frapper de telle façon. On ne pense jamais à ça, n'est-ce pas, Hugues?
Non. Je n'ai jamais été à l'hôpital pour une grippe, puis je pensais pas qu'une grippe m'amènerait là non plus.
Exactement. Racontez-nous un peu là, la genèse de cette histoire. Quels ont été les premiers symptômes que vous avez ressentis, Hugues?
Ben, c'est une grippe que je traînais depuis peut-être bien une semaine ou deux là, que j'étais grippé. Puis du jour au lendemain, là, ça a viré de bord, ça a viré en pneumonie, puis là, après ça, ben, là, c'est de la bactérie qu'on a dans le corps qui a pris mes poumons, puis tout s'est enchaîné par la suite. Là.
Vous êtes allé voir votre médecin à quel moment?
Oh, j'ai pas été voir de médecin. La journée avant que je parte pour l'hôpital, ma blonde avait été à la pharmacie, puis la pharmacienne m'y avait donné du sirop. Puis parce que lundi, je suis allé travailler. À midi, j'ai arrêté de travailler parce que je filais vraiment trop mal. Fait que je me suis emmené chez nous me coucher. Puis j'ai dormi toute l'après-midi, toute la nuit. Puis mardi, je me suis même pas levé. J'ai dormi toute la journée de mardi. Puis mercredi, quand je me suis levé, là, j'étais plus capable de respirer. J'ai dit à ma blonde de coller l'ambulance. Puis là, c'est là que tout a défilé.
Et une fois rendu à l'hôpital, comment ça s'est passé? Avez-vous été trié rapidement?
Oui, à l'hôpital, oui. Puis ce qui m'a aidé, c'est qu'à l'hôpital, à Mkoui, proche de chez nous, ils m'ont donné tout de suite le bon antibiotique en partant. Mais je n'ai pas été là longtemps, parce qu'ils m'ont transféré tout de suite à Rimouski. À Rimouski, ben, j'ai été là à peu près une journée. Ils m'ont mis dans un coma artificiel, ils m'ont intubé, puis là, ça a été à Québec en avion. J'avais à peu près 4-5 % de chance d'arriver en vie à Québec. Hey. C'était ça où je restais. Si je restais à Rimouski, c'est sûr que je passais pas au travers. Ils ont dit, ben, il y a 4 à 5 % de chances d'arriver en vie à Québec. Ils ont dit, si ça serait mon père ou mon conjoint, je prendrais la chance de l'envoyer à Québec. Fait que c'est ça que ma famille a fait. Ils ont bien fait que je suis arrivé en vie.
Attendez, là, vous êtes à l'hôpital, et là, d'un gars qui file pas, qui a la grippe depuis 2-3 jours, mais enfin, parce que on s'entend que peut-être probablement qu'au début, c'était plus un rhume qui s'est développé ensuite en grippe, parce que le docteur Laberge, à qui on va parler dans quelques minutes, vous dirait que si vous avez quand même été capable de travailler, puis que ça a été latent pendant plusieurs jours, c'était plus un rhume probablement, bon, parce que la grippe, ça te force à t'arrêter, ce qui a fini par vous arriver, puis vous amener à l'hôpital. Mais là, à l'hôpital, vous dites que les équipes médicales vous ont dit que vous aviez 4 à 5 % des chances de survivre. Ça doit fesser, ça, comme nouvelle.
Oui, ben là, c'est parce que mon foie ne marchait plus, mes reins avaient arrêté de marcher. Puis à Rimouski, ben, il n'y avait pas la grosse machine à dialyse pour me dialyser. Ça fait que c'est ça, ils ont dit à ma famille, ben là, s'il ressuscite, c'est sûr qu'il ne passe pas au travers. Sa chance, c'est de l'envoyer à Québec, mais il y a 4 à 5 % de chances d'arriver en vie à Québec. Mais ils ont dit, nous autres, on prendra la chance de l'envoyer. Ça fait que ma famille a décidé.
Donc les médecins savaient déjà à ce moment-là que vous aviez une infection bactérienne, une bactérie vraiment agressive. C'était le staphylocoque aureus dans votre cas, là. Apparemment que 30 % des gens portent de façon tout à fait saine cette bactérie-là, mais quand on a le système immunitaire affaibli, on peut développer ce qu'on appelle une septicémie, c'est-à-dire une infection qui amène à l'amputation.
Oui, c'est ça, mais à Rimouski, ils ne savaient pas encore c'était quoi. Ils me donnaient, c'est comme à Québec, ça a pris un petit bout avant qu'ils savent, ils me donnaient tout ce qu'il y avait d'antibiotiques, ils me le donnaient tout, en espérant qu'il y en ait un qui allait faire, qui allait agir, qui allait... Puis, à force de me donner, ben, m'amener, ça a fait épais.
Et c'est arrivé quand, la possibilité de l'amputation, Hugues Leblanc?
En mars, là, vers la mi-mars, fin mars. Là.
Mais je veux dire, au moment où vous êtes à l'hôpital, on vous transfère à Québec. Et à Québec, avant de vous mettre dans un coma, est-ce qu'on vous parle d'amputation ou c'est venu après?
C'est à Rimouski qui m'ont mis dans un coma.
Ah oui.
À Rimouski, ils m'ont mis dans le coma artificiel, puis ils m'ont intubé à Rimouski. Moi, à partir de là, ben là j'ai plus connaissance de rien. Là. C'est ma conjointe et mes enfants là, qui décident.
Mais étiez-vous conscient de l'amputation avant?
Non, pas du tout.
Donc, vous vous êtes réveillé, Hugues?
J'ai tombé endormi à Rimouski, puis je me suis réveillé un mois et demi, deux mois plus tard à Québec amputé.
Aïe, aïe. Et comment on se réveille en se rendant compte qu'il nous manque deux bras, deux jambes?
Ben là, ma blonde, le pire, c'est ma blonde, elle a été obligée de me le dire deux, trois jours d'affilée, parce que moi, tous les jours, je me réveillais quand je sortais du coma, puis je me souvenais plus de rien. Fait que là, elle me le réapprenait à tous les matins. Ben, la seule affaire que j'ai dit, si tu veux qu'on fasse, au moins, je t'en veux.
C'est vrai? Vous l'avez pris comme ça?
Oui.
Mais c'est une autre vie là, avec laquelle vous devez... Oh,
c'est une nouvelle vie qui commence. Ma vie avec des mains et des pieds est finie. Là, c'est de réapprendre à vivre comme ça.
Et comment vous voyez ça?
Pas d'un bon œil. Moi, ce qui compte pour moi, c'est d'être en vie. Le reste, on va vivre avec, on va apprendre à vivre avec.
C'est drôle, votre histoire me fait tellement penser à celle de Marisol Saint-Onge. Et je ne sais pas si vous seriez intéressé à lui parler. J'ai essayé de la joindre ce matin et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui écoute en ce moment puis qui connaît Marisol et puis qui peut lui dire que j'aimerais ça lui parler. Ben, j'aurais aimé la faire vous dire quelques mots, Hugues Leblanc, juste parce que je sais à quel point c'est important. Vous êtes très peu au Québec à vivre cette situation-là. C'est quand même assez peu commun d'être quadruple amputé. Marisol est un modèle fabuleux, mais elle-même a eu besoin d'aller rencontrer un autre amputé comme ça. Dans notre documentaire, entre autres, on est allé avec elle en France rencontrer quelqu'un qui s'est fait électrocuter avec ses fils électriques dans son jardin. Quelqu'un qui était un nageur et qui a fini par traverser la Manche. Comme il dit lui-même, j'ai traversé la Manche, pas de bras, mais qui a réussi à avoir une autre vie. Marisol, c'est beaucoup... abreuvé de témoignages de cet homme-là. Puis je pense que vous aussi, vous seriez peut-être intéressé à parler à quelqu'un qui a vécu la même chose, parce que c'est pas évident là, ce que vous vivez. Là. C'est sûr que c'est mieux que d'être mort, mais c'est quand même pas évident de se retrouver à 50 ans avec une partie des membres en moins. Là. C'est un véritable travail que vous allez devoir faire. D'un point de vue psychologique, avez-vous de l'aide?
Ben non, il y en a beaucoup qui m'en ont été offerts, mais j'ai pas. Pour l'instant, je ressens pas le besoin de ça. Là. À l'IRDPQ, ils m'ont demandé si vous voulez la rencontrer, Marisol. Ben, j'ai dit pour l'instant, en tout cas, j'ai un bon moral, tout va bien. Ma conjointe et mes enfants ont toutes lu son histoire, puis même ils ont été en contact avec elle un peu sur Facebook.
Ouais.
Puis j'ai écouté son reportage. Non, moi, en tout cas, pour l'instant, ça va bien côté moral. Puis, je me dis que je vais apprendre. Là, je me fixe des objectifs sur ce que je vais être capable de faire, pas ce que je suis capable de faire.
Qu'est-ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui, par exemple, que vous n'arriviez pas à faire les premiers jours, Hugues?
Me moucher.
C'est bête de même, hein?
Ouais, moucher, brosser les dents. Il y a une couple d'affaires là, que je réussis à faire, là. Mais que j'aille mes prothèses, ben là, ça va m'en faire plus que j'en fais là. Ouais. À l'IRDPQ avec des prothèses d'essai, j'ai fait bien des affaires.
Oui, l'IRDPQ, c'est l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec. Les fameuses prothèses qui ont été qui s'avéraient être compliquées à avoir, que finalement vous allez pouvoir avoir. Parce que votre député, ce qui se trouve à avoir trouvé une façon de faire avancer le dossier, visiblement.
Oui. Je le remercie beaucoup pour ça, parce que ça a donné un bon coup de main. Ça a déboulé assez vite. Là. Quand ça a sorti dans le journal, là, ça a été vite.
Député de Matapédia, qui est Pascal Bérubé, en fait.
C'est ça.
Et donc, lui, il a fait en sorte que vous puissiez avoir des prothèses. Je sais que les prothèses, c'est pas évident, ça coûte cher. Et puis, même Marisol avait eu de la misère à avoir les siennes. C'est quand même assez incroyable. Ça met de la lumière, ça met en lumière tous les problèmes que peuvent vivre les gens qui ont des handicaps physiques et qui dépendent justement de prothèses, de soins. C'est pour ça que je trouvais important de parler de ça également avec vous. Comment vous voyez la vie au cours de des prochains mois? Parce que j'imagine que c'est au jour le jour, semaine après semaine, vous allez devoir vous habituer. En même temps, je regarde la photo, votre photo, Hugues, puis je vois que vous avez vos coudes, vous avez été... Marisol m'a vraiment expliqué que c'est aussi le niveau d'imputation est assez important. Il y a des gens qui sont amputés très haut près de l'épaule. C'est plus délicat que quand on est amputé au poignet, par exemple. Vous, c'est un peu votre cas. Vous avez quand même l'ensemble de votre bras, vous avez votre coude. Ça vous permettra, au fil des ans, de faire beaucoup plus de choses.
Oh oui, de ce côté-là, j'ai été chanceux parce que j'ai mes coudes. Mes jambes, ils m'ont fait des greffes de peau sur le devant des jambes pour réussir à me sauver mes genoux. Juste avoir les genoux, c'est beaucoup et tout. Là. C'est beaucoup plus facile de marcher avec mes genoux qu'une prothèse avec un genou. Là,
ouais.
Là j'ai été chanceux. Là, c'est ça qui a retardé un peu pour appareiller mes jambes. Là, c'est parce que mes greffes de peau ne sont pas complètement guéries encore. Là, je remonte lundi à Québec, à l'IRDPQ. Puis là, on va commencer à travailler pour les jambes.
Bon. Écoutez, on vous souhaite la meilleure des chances, Hugues Leblanc. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler.
Ça fait plaisir.
Bon courage. Hugues est résident du Bas-Saint-Laurent. Il est parti d'une mauvaise grippe au seuil de la mort. Et vous avez entendu, un mois et demi, deux mois de coma. Tu te réveilles, il te manque deux bouts de bras et une partie des deux jambes. C'est pas évident, mais on entendait bien que pour lui, c'était mieux ça que de ne pas être là. Hein? Mieux ça qu'être mort, c'est sûr. Évidemment. Mais je vous le dis, là, c'est pas évident. Là. C'est pas évident, ça serait pas évident pour... Puis il y a déjà eu des cas où les gens n'ont pas été capables de vivre ça, où ont préféré s'enlever la vie. Donc, je sens que Hugues avait un certain optimisme et c'est la bonne approche. On va s'arrêter ici. On va parler avec le docteur Christiane Laberge, qui est médecin de famille, qui va nous dire justement cette période de vaccination contre la grippe qui commence aujourd'hui. Est-ce que ça vaut la peine de se faire vacciner malgré les taux un peu décevants de couverture? Si vous avez des questions sur le vaccin contre la grippe, vous pouvez nous appeler au 514-790-9850. Sans frais, vous pouvez nous joindre au 1-866-790-9850. On parle de cette période de vaccination contre la grippe qui commence aujourd'hui. Docteur Christiane Laberge est avec nous, les médecins de famille. Bonjour Christiane.
Isabelle,
oui?
Peux-tu te poser une question?
Ben vas-y donc.
Ce monsieur-là,
oui?
Il me donne tout à fait l'impression d'être quelqu'un qui a appris à méditer en pleine conscience.
Écoute, je sais pas.
Quelqu'un qui fait de la cohérence cardiaque.
Ouais.
Quelqu'un qui est en train de focusser, de mettre son attention sur ce qu'il a,
ouais,
dans son processus de résilience.
Ouais.
Et il fait tout à fait ce qu'on nous a enseigné, ce que Dr Serge Marquis nous a donné dans sa conférence. « Don't miss the show. Mon grand, à partir de maintenant, ne manque pas ce qui va se passer avec toi et devant toi. » Et ce processus de résilience-là, quand on parlait de psychothérapie et tout ça, ça se peut qu'il n'y en ait pas besoin.
C'est fou, hein? Mais c'est formidable. Je trouvais que son modèle était intéressant.
Mais ouais, c'est pour ça, la méditation pleine conscience, ouais, Isabelle, c'est ça que ça te donne en réadaptation.
Ouais. Et Marisol Saint-Onge, que j'ai bien connue, est aussi une preuve de ça. C'est qu'à partir du moment où on s'est réveillé un peu comme Hugues avec deux bras, deux jambes en moins, s'est dit, je travaille avec ce que j'ai.
C'est ça.
Mais il faut quand même être fort, effectivement. Sur les vaccins, il y a beaucoup de questions. Les gens se disent, oui, voilà. Alors, quelles sont tes recommandations médicales, Christiane?
Bon, alors, les recommandations du gouvernement du Québec, qui étaient différentes avant l'élection et qui sont différentes après l'élection, ça demeure pour les gens qui sont, entre guillemets, à risque, c'est-à-dire les gens malades. Ça demeure une vaccination qui va nous apporter statistiquement, selon ce qu'on nous dit de l'OMS, devrait nous apporter un avantage cette année. Un dans l'autre, on nous dit, c'est 40 à 60 ce qu'on nous a de couverture. Ce qu'on nous dit aussi, c'est un vaccin quadrivalent, donc tu as quatre sortes de virus dedans qui devraient viser ceux qui devraient nous frapper. Les enfants de 6 à 23 mois, on avait dit c'est pas nécessaire de les vacciner. Maintenant, la nouvelle ministre dit oui, on va les vacciner
mais
pareil.
Oui, c'est ça, ça a été mêlant, là. Ouais.
Mais ce qui avait été dit avant, c'est qu'on avait fait des statistiques sur long terme chez les enfants de ce groupe d'âge-là. De toute façon, 1 sur 5 était vacciné. Deuxièmement, on avait pris comme exemple une année où il était particulièrement méchant et on avait eu des hospitalisations, mais après, les différents virus qui nous avaient frappés n'avaient pas entraîné plus d'hospitalisation chez les enfants de 6 à 23 mois, d'où le lever de la pédale là-dessus.
Maintenant, mais là, les parents qui nous écoutent, qui ont des enfants de 2 ans et moins, est-ce qu'ils doivent le faire vacciner, leur enfant?
C'est au choix. Parce que on sait que si on a un enfant en parfaite santé, qui n'a jamais eu de complications, qui n'est pas asthmatique, qui n'est pas cardiaque, qui n'est pas en chimiothérapie, qui n'a rien de particulier, pas de retard de développement, etc., ces enfants-là, on peut les faire vacciner avec le lendemain de l'élection. Puis avant, on avait mis une petite restriction en disant que ce n'est pas nécessaire.
Okay.
Chez les personnes de 50 ans à 75 ans, on avait dit, chez les personnes de 50 à 75 ans, pas de vaccination automatique chez les gens en parfaite santé parce qu'on n'aurait pas diminué les hospitalisations et les mortalités liées à la grippe. Mais, le lendemain de l'élection, on a dit « OK, tout le monde, on donne l'accès gratuit à tout le monde à partir de 50 ans. »
Est-ce qu'on peut savoir, est-ce que tu comprends pourquoi soudainement la nouvelle ministre a changé ça?
Non, ça serait éditorial.
Okay. On aime ça, les éditoriaux. non, mais c'est quoi?
C'est parce que c'était trop compliqué de changer les papiers. Peut-être parce que les consignes n'étaient pas claires. Peut-être parce qu'on n'avait pas eu le temps d'intégrer ce qui avait été donné comme consigne 1, qu'on est revenu à la consigne 2 pour que peut-être l'année prochaine, ça soit changé. Mais de toute façon, ça reste tout le temps gratuit. 50-75, pareil.
Pour ceux qui en ont besoin, voilà.
Mais ça reste quand même. Mais là, ce qui était dit, c'était que c'était pas nécessaire parce qu'on diminuait pas chez les gens en santé. Mais évidemment, Isabelle, tu peux être en santé, mais être la personne pivot pour ta grand-mère au centre d'accueil qui, elle, est vulnérable. Donc, tu vas te faire vacciner pareil.
C'est ça.
Ou tu gardes ton petit-fils qui a 2 ans ou 1 an et demi, tu vas te faire vacciner pareil pour pas qu'il l'attrape. Donc, tous ces afférents-là, si tu veux, autour des gens qui sont malades et qui en prennent soin, on suggère de ne pas leur donner, évidemment. Si tu ne peux pas t'empêcher de les voir pendant 2 semaines, bien, tu te fais vacciner, tu comprends?
On a Alain qui est avec nous, qui a eu déjà une grippe. Bonjour Alain, aviez-vous été vacciné?
Non, moi j'étais jeune, j'avais peut-être 33, 34 ans en forme. Et puis on se dit tout le temps, pour se faire vacciner, à ce temps-là, on n'était pas au courant de ça. Et puis j'ai pogné l'influenza.
Mm-hmm. Ouais.
Et puis là, j'ai été malade là, vraiment pendant une semaine au lit, mais j'ai pas été à l'hôpital.
Parce qu'on va jamais à l'hôpital pour une grippe.
Ben non, c'est ça. Là, j'ai passé au travers de ça. Et puis un an après, je perdais mes reins. Parce que j'avais la maladie du berger en dedans de moi.
Okay.
Et puis j'étais trop faible et puis ça a déclenché ma maladie. Là, j'ai perdu mes reins et puis c'est ça qui est arrivé. Je me serais fait vacciner, ça aurait peut-être jamais arrivé, mais on ne sait pas, là. Personne ne peut savoir ce qu'on a dans nous, là.
Ouais. Est-ce que la grippe peut déclencher? Ben, on l'a vu dans le cas de Hugues, ça a sans doute déclenché une septicémie à cause de la faiblesse de son système immunitaire à ce moment-là. C'est sûr que quand tu as la grippe, ça affaiblit ton système. Tu peux attraper plein de choses, finalement, j'imagine.
Ben, quand tu te fais faire une biopsie de la peau, tu pourrais avoir ça théoriquement. Quand tu te fais faire une injection, quand tu te fais faire...
C'est ça.
une égratignure sur le bord de la jambe. Dès que tu as une porte d'entrée théorique, ça peut rentrer. La maladie, oui, elle peut arriver n'importe quand, mais on sait que, par exemple, si tu as un streptocoque, tu peux avoir une maladie rénale causée directement par ton streptocoque de gorge. Mais le lien direct entre l'influenza et la maladie de monsieur, c'est difficile à faire de même, là, de cause à effet, parce que sur le nombre de personnes qui ont la grippe, c'est pas comme, tu sais, par exemple, on parle des effets secondaires du vaccin ou de la maladie qui s'appelle le Guillain-Barré, mais quand on regarde le nombre, c'est vraiment petit, et bon, on fait des associations, mais disons que tu pourrais l'avoir aussi avec le rhume, tu sais.
Ouais. Donc, ta recommandation, Christiane, pour les gens à risque, tu as bien expliqué,
c'est ça.
Ce serait de se faire vacciner. Pour les autres, ben on se lave les mains, on évite de se mettre toujours tout le temps les mains dans le nez, dans la bouche aussi, tu nous dis ça souvent. Puis en théorie, si on voit qu'on a un...
Puis la grippe, on va en avoir 5 à 6 dans notre vie entière. Donc, en général, c'est quelqu'un qui a tendance à faire de l'asthme. C'est clair, les enfants asthmatiques, on va les vacciner parce qu'on sait qu'eux, s'ils font de l'asthme plus sévère avec la grippe, ben, on va être obligé de les hospitaliser. Ouais. Donc, le but, c'est de prévenir les mortalités et de prévenir les hospitalisations. C'est surtout ça, et les consultations. Donc, tous les gens qui sont à risque de consulter quand ils sont plus malades au niveau grippal, ça veut dire que même si tu es cardiaque, puis juste de faire de la fièvre, tu as des problèmes cardiaques, ben, ton rythme cardiaque s'en va à 100. Mais c'est bien de valeur, mais c'est comme de monter 6 marches d'escalier en courant. Si ton cœur ne permet pas ça, même sur le plat, bien c'est clair que ça va te décompenser.
Oui. Merci beaucoup, Dr. Christiane Laberge. Merci bien. Toujours bien d'avoir des conseils médicaux là-dessus, parce qu'on ne sait jamais quoi faire. Alors voilà, vous êtes en mesure de mieux décider. On va s'arrêter ici tout de suite après la pause. Le gros débat de cette semaine post-gala de la disque, c'est est-ce qu'on valorise trop les chanteurs marginaux au détriment des chanteurs populaires qui ont fait leur marque. Vous me direz ce que vous en pensez de ce débat-là. À tout de suite.